cette année est marquée par l'arrivée en force des mangas. Les mangas, ce sont des bandes dessinées japonaises que vos chérubins n'arrêtent pas de vous réclamer.
Ça s'adresse à une clientèle de jeunes qui est en fait représentative de la société d'aujourd'hui. Donc en recherche d'identité, un peu en marge.
Les mangas, c'est quand même ça. C'est un, une violence incroyable, et deux, trois mots de vocabulaire.
Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles.
Un manga que l'on pourrait traduire par image irresponsable.
Bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans BAM, Banger Anime Manga Masterclass, votre podcast préféré qui parle d'anime, de manga, de jeux vidéo, de culture japonaise et consorts. J'espère que vous allez toutes et tous très bien de là où vous nous écoutez. Je ne suis évidemment pas seul, Black Kaizoku est avec moi, salut Kai.
Salut, ça va ?
Ça va très bien toi ?
Ça va super, bah on est dans une super saison d'anime.
Tu l'as déjà dit la semaine dernière.
Il le faut, mais c'est la vérité. En vrai,
changer de catchphrase.
Non, en vrai, on est vraiment gâtés. Donc là, en tout cas, pour cette émission, on va parler de quelque chose d'assez big et d'assez attendu. Big.
Effectivement, on vous garde le mystère, même si vous avez vu dans le titre, je pense, pour nous écouter aujourd'hui. Xella.
Ouais, il y a des chances que s'ils ont cliqué sur le truc et qu'il y ait écrit plutôt l'animé.
Plutôt dans Mickey Mouse, là. Dans
oui, c'est... plutôt dans Mickey Mouse. Oh. Tu le fais vraiment bien, hein, c'est ouf. Quand on voudra remplacer la voix de Mickey, on saura où aller. Mais ouais, non, du coup,
ça va, tu vas bien?
Non.
Quoi donc? Dis-nous, vas-y.
Parce qu'en fait, assieds-toi, vu que ça allait bien.
T'as fait quoi hier soir?
Ça allait bien l'épisode précédent.
Ça va? Tu vas bien?
Ça va?
Très bien. Allez, super. On va pouvoir du coup commencer.
Espèce de con.
Le sujet du jour, c'est plutôt l'adaptation animée du manga de Naoki Urasawa. Il sort du coup le 26 octobre sur chez Netflix et on a eu la chance, l'immense honneur d'être invité par Netflix directement dans leurs locaux pour voir les deux premiers épisodes en avant-première de la série. Xel et moi, on a pu du coup s'y rendre l'autre jour. Avant de parler peut-être de la série en soi, parce que tu peux peut-être un petit peu parler de l'expérience de l'accueil du Big N.
Oh, waouh!
On était accueillis en grande pompe.
Ouais, déjà dans les beaux quartiers de Paris. Je vais pas liker l'adresse pour l'instant. Et non, c'est... Les locaux sont ouf. En vrai, les locaux sont ouf. Genre, ils ont des salles aux couleurs de chacune de leurs séries. C'est sur plusieurs étages. C'est big. Et genre, on arrivait...
On arrive dans le hall... Une
petite salle...
Non, avant d'arriver dans le truc, il y avait une sorte de hall...
Oui.
La big statue de Stranger Things, là, le monstre là, qui truc. Il y avait des boissons, il y avait de la bouffe, machin. On nous ramène dans une petite salle, effectivement.
Une salle de projection. 8 places dans la salle. 8 places.
Incroyable. Des petits fauteuils. Là, on était... Ah, vous voulez de l'eau, vous voulez un Kinder Bueno, des M&M's. Ah, j'étais comme un roi, comme ça, j'étais posé. Et je vois sur la télé, Naoki Urasawa, assis, qui veut parler. Je me dis, ah.
Là, bonjour chef.
Bonjour tonton. Bonjour tonton, vous effectivement. Ici. Naoki Urasawa, évidemment, très grand auteur. Vous le connaissez peut-être pour Monster, pour 20th Century Boys, pour plein d'autres mangas. Voilà,
la liste est longue. Hein.
La liste est très très longue. Et vous le savez bien, c'est peut-être mon mangaka préféré. Voilà,
oui.
C'est en tout cas un des très grands auteurs de manga, on peut le dire. Billy Bats, évidemment, toutes les histoires courtes, Yawara, qui est son premier succès. Donc, bon, voilà, si vous pouvez lire du Naoki Urasawa, faites-le avec plaisir. Et
l'excellence, Urasawa.
L'excellence, c'est l'excellence incarnée. Ce mec, dans tout ce qu'il fait, dans la musique, dans.
J'ai ses deux albums chez moi. Et bah. Ils sont vraiment bien. Le mec est trop fort.
Donc, encore une fois, merci beaucoup à Netflix de nous avoir invités et de pouvoir nous donner l'occasion d'en discuter en avant-première avec vous. Évidemment, il n'y aura aucun spoil. Bon, si vous avez lu le manga, vous savez de quoi ça parle plutôt. Plutôt, c'est l'adaptation. Le manga, déjà, est une adaptation d'une histoire d'Osamu Tezuka de Astro Boy. Voilà, ça part de ce postulat-là. C'est peut-être un manga, voilà, hommage à Osamu Tezuka, qui est sorti maintenant il y a quelques années, hein, chez nous, chez Kana. Je crois qu'il y a une réédition, si vous voulez découvrir le manga en 8 tomes, chez Kana, dans une belle box collector. Oui, donc si vous voulez.
Régulièrement d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, c'est en 8 tomes, ça qui vient, c'est un petit manga en 8 tomes. Allez-y, foncez. Mmh. Très rapidement, le synopsis, c'est l'histoire qui reprend le concept d'Astro Boy, mais dans un univers parallèle où les 7 robots considérés comme les plus puissants du monde sont à tour de rôle victimes de tentatives d'assassinat. Et on suit du coup Gesicht, robot enquêteur affilié à la police allemande et qui est marqué qui est chargé de retrouver le coupable de ces meurtres. Voilà, donc ça c'est un petit peu le postulat de départ de Pluto. On a eu du coup l'occasion de voir les deux premiers épisodes. Voilà, donc on va pouvoir parler que des deux premiers épisodes, évidemment, et de pas toute la série. La série fera 8 épisodes de à peu près 1 heure par épisode. Le premier était de 70 minutes, très précisément. Le deuxième de 57 minutes, à peu près.
Ils sont balèzes.
Voilà, on va dire 1 heure par
épisode. Quasiment un tome par...
Ce sera un tome par, ouais, ce sera par épisode. Un truc, littéralement. Ça va être ça. Donc, encore une fois, on va pouvoir en parler ce soir ensemble. Donc, ça a commencé par un message de Naoki Urasawa, l'auteur du coup de Pluto. Il dit quoi brièvement? Il disait quoi, Xela?
Qui était content que Pluto soit adapté et tout. Et c'est un petit message personnalisé pour la France.
Ça. J'ai demandé directement à Netflix. Il a fait le message uniquement pour la France. Il n'y a pas eu d'autres messages pour d'autres pays. Donc ça, c'est cool.
Et en plus, il est arrivé. On lui a dit, ouais, parle de la France. Il est arrivé avec un flex monumental. Il a fait, ouais, en 2018, j'ai fait une petite expo à Paris, à Angoulême aussi. D'ailleurs, j'ai fait un partenariat avec le Louvre pour Mizuichi. Ouais. Je crois que le manga s'appelle. Voilà. Donc ouais, non, la France, pas mal. J'ai dit, ah
petit ouais. petit flex.
C'est fort.
Il a le droit, effectivement. Tonton Urasawa a le droit de dire ce qu'il veut, de toute façon. On a pu, du coup, voir les deux premiers épisodes. Et qu'est-ce qu'on en a pensé?
Waouh. Bam. Banger, anime, manga, master.
C'est pour ça qu'on a fait ça. On n'y peut rien. Tout est dans le titre du podcast. Banger, anime, manga, masterclass. C'était absolument incroyable. J'ai passé vraiment 2 heures qui sont passées tellement vite et je veux tellement voir la suite. Je me grattais les veines. Je voulais
que l'épisode 3 failli se lancer.
Pourquoi pas? Lâchez-nous ça un petit peu. Mais voilà, on part voilà, sur ces deux premiers épisodes qui sont d'une excellence à toute épreuve, que ce soit dans l'animation. Il y a des plans de réalisation absolument fous. Même des petites scènes à la con où, genre, tu vois, Gezich sortir un flingue, tirer sur quelqu'un. Ça dure un petit sakuga là, de quelques secondes.
Le coup de pied,
c'est gratuit.
Il a un coup de pied dans un crackhead là.
Ouais.
Ouais,
effectivement.
Mais si, c'est gratuit parce que c'est pas des scènes importante entre guillemets, c'est tu vois, ça. C'est pas des scènes majeures, mais c'est généreux. Il y a une fidélité d'adaptation dans le, évidemment, dans le chara design d'Urasawa qui est quand même très singulier.
C'est clairement le manga en animé.
C'est le manga animé à la manière de Monster, un peu finalement. Hein. Je crois que c'est plus ou moins le même staff d'ailleurs que sur Monster.
C'est ça, de toute façon, le staff, je m'en parle un petit peu plus tard parce que je l'ai dans son entièreté. Mais ce que j'ai adoré déjà visuellement pour rester sur le visuel, c'est qu'ils ont réussi à être à la fois old school et très moderne. C'est-à-dire que vraiment, sur l'animé, il y a des moments où tu te dis, mais c'est sorti en 2023, ou ça respire un petit peu les années un peu 2000, machin et tout. À la Monster, justement, le premier animé de Monster. Et en même temps, beaucoup de CGI très bien foutu pour la plupart du temps.
Ah oui.
Beaucoup sur les véhicules, sur les effets météorologiques ou tout, ouais. les paysages. Mais c'est toujours très bien fait. C'est jamais gratuit, quoi. Quand c'est fait, c'est là, c'est bien fait. Donc visuellement, franchement, déjà juste là, ça dépote. Même en termes de sound design, de musique, etc., le peu qu'on a pu entendre, c'est très bien.
Le passage musical, là, avec tout l'arc de Norsu, quand il joue du piano, oh là là, c'était beau, bien fait.
C'est tellement bien rythmé. Tellement bien rythmé.
Donc là, ouais, les un tome, ils sont pas... C'est pas une...
C'est vraiment... ça prend son temps quand ça doit prendre son temps, ça accélère quand ça doit accélérer. Évidemment, pour ceux qui ont lu le manga, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'action sur le début du manga, donc c'est beaucoup de setup. Voilà, c'est généralement sur Urasawa, il y a beaucoup de setup avant d'arriver vraiment sur l'action ou quoi. Ça c'est le
et même
le
là. Et même là, moi c'est ça qui m'a, c'est que c'est pas du setup entre guillemets de là où dans beaucoup d'œuvres généralement quand il y a de l'installation comme ça, on va te montrer beaucoup de personnages, beaucoup de lieux, des concepts. Et là en fait, le setup il se fait dans de l'action entre guillemets, pas de l'action dans le sens dynamisme, mais il se passe des choses, l'histoire avance. Et c'est l'avancée de l'histoire qui te met en place les bases petit à petit. On t'introduit des personnages, on te les présente pas en disant « Bonjour, c'est Kai ». On te dit « Oh, ça c'est Kai », et tu vois Kai qui fait un truc, tu vois. Et c'est plein de trucs comme ça tout qui font que t'as pas le temps de t'ennuyer du tout. T'as pas ce côté un peu, je sais plus comment ils disent les anglais, l'info-dumping. C'est juste on te balance des trucs à la tronche, et à la fin t'es ok, j'ai à peu près compris le concept, on peut commencer l'histoire.
Tout sert à quelque chose.
C'est
quand
ça.
Tu développes un personnage, quand tu prends tout le temps sur un personnage, il va se passer quelque chose avec ce personnage, il faut que tu sois attaché émotionnellement à celui-ci. Ça marche. Purée, ça marche. Qu'est-ce que c'était bien. Putain, plus j'y pense, plus c'est bien. C'est absolument dingue. On rappelle, pour revenir un petit peu avant de revenir sur la série, je voudrais qu'on revienne un petit peu aussi sur la genèse du projet. C'est un animé qui est annoncé il y a déjà de nombreuses années. Hein, ça fait au moins 7, 8, 9 ans, je ne sais même plus.
2016, 2017.
Ça fait un petit moment que le projet existe. qui, pour on ne sait quelle raison, n'a pas avancé. On n'a pas pu
le voir. Des réseaux,
totalement
des
disparu. Aucune nouvelle. On a vu une petite affiche, fut une époque.
Il y a un chara-design qui était sorti aussi.
Il y a un chara-design, effectivement.
Mais qui est sorti à la vente.
Oui, aux enchères.
Aux enchères, ce qui généralement était signe d'une fin de production ou d'un arrêt de production. Du coup, là, je me rappelle à l'époque, c'était un peu la panique. J'étais, oh putain, merde.
Est-ce que ça existe vraiment encore?
Est-ce que le projet annulé?
C'est ça. Il y a peut-être maintenant, du coup, un an ou deux, Netflix a sorti un petit peu ça de sa poche. Effectivement, je pense qu'ils n'étaient pas prévus, à mon avis, Netflix dans le projet de base et qu'ils ont dû s'y ajouter quelque part, ce qui a fait peut-être revivre le projet.
Je pense que c'est ça.
Pure supposition, hein, on n'a pas eu d'infos sur ça.
En vrai, ça fait sens quand tu vois que pendant longtemps, Silence Radio, il y a le truc des chara-design qui, pour moi, ça signifie que le projet peut-être est un peu pas remis à zéro. Mais il a été refait en profondeur. Et derrière, t'as les six qui arrivent qui ont fait « Ok, venez, on refait un truc. »
D'ailleurs, assez étrange, hein, la communication de Pluto. Hein, on avait eu... C'était même pas forcément un trailer, c'était des...
Un mini-épisode, un extrait.
Ouais, un extrait de plusieurs scènes de l'épisode 1, 2, voire plus.
Voire plus, parce que
effectivement, qu'on n'a pas vu, ouais, effectivement. très étrange, à ce niveau-là, quand j'y
repense. Il y a eu un petit truc en 2019 à Annecy.
Ouais. Donc, une fois, voilà, c'était très bizarre en termes de communication. L'anime, aujourd'hui, il existe, il est réel. On a vu les deux premiers épisodes. Vous avez vu des trailers et des affiches qui sont absolument dingues, d'ailleurs, aussi, au passage. L'anime sort le 26 octobre, donc jeudi prochain, à l'heure où on tourne le podcast. Vous l'aurez peut-être déjà vu d'ici là, quand ça sortira. Mais très gros staff de vétérans derrière l'anime. Donc, encore une fois, pas du tout surpris par tout ce qui se passe. J'ai quelques noms. Hein. Le producteur, c'est Takahashi Nagasaki. Le réalisateur, c'est Toshio Kawaguchi, qui a travaillé sur Evangelion et sur Pocoroso, donc deux petites œuvres. le concepteur des personnages et directeur de l'animation, c'est Shigeru Fujita, donc Monster, évidemment. Il n'y a pas eu beaucoup finalement de mangas de Naoki Urasawa qui ont été adaptés en animé.
Il y a Yawara.
Il y a Yawara qui a des petits OAV
qui datent d'époque,
qui datent de longtemps. Monster, effectivement. Je crois
pas
que c'est
Pineapple
tout.
Pas Army, hein. Peut-être. J'ai un doute.
Peut-être, je sais pas. Je t'avoue que je
l'ai. Non, Master Keaton.
Master Keaton, ce que j'ai dit. Master Keaton. Master Keaton, effectivement.
C'est tout, je crois. Hein.
Effectivement, c'est tout. Mais pour continuer, voilà, la musique, c'est Yugo Kano, donc Jojo's Bizarre Adventure. Juste un des meilleurs.
Les musiques sont chouettes.
Ouais, voilà, juste un des meilleurs gars dans sa profession en ce moment. Et voilà, on a plein d'autres noms, tous intéressants. Et évidemment, en conseiller créatif, Naoki Urasawa lui-même, du coup, qui est impliqué, évidemment, dans la production de son animé. Naoki Urasawa, c'est un perfectionniste. C'est-à-dire que ça serait pas sorti si ça lui plaisait pas. Et c'est ça qui est cool. C'est ça, je suis confiant avec ce genre d'auteur, c'est que quoi qu'il se passe autour de ses œuvres, ça va être bien parce que le mec, il est derrière, il va pousser le truc à fond.
Il va pousser le truc comme s'il l'avait créé.
Enfin, et c'est un touche-à-tout en plus. Donc, à savoir, il a cette capacité d'adaptation. D'ailleurs, tu parlais de la musique. Il passe son temps à faire des trucs. Maintenant, à un moment, il s'est lancé dans une carrière de journaliste presque, avec son émission sur YouTube, là, Mad Men. Il était prof, il fait un milliard de trucs.
C'est pas un auteur, c'est un artiste, mais vraiment.
Mais c'est un artiste presque dans le sens presque de la Renaissance. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il fait tout. Il fait de la sculpture, il fait du dessin, il fait de la peinture. C'est vraiment ça. Et le pire, c'est qu'il est trop fort partout. Trop fort partout et il laisse rien passer. Je sais pas si vous aviez. Toi, je sais que tu l'as vu, mais Kai, je sais pas si tu l'as vu l'expo de Urasawa, qui était à Angoulême et à Paris. Quand tu vois ne serait-ce que les croquis qu'il fait, en fait, là où la majorité des auteurs, leurs croquis, tu devines l'action, Urasawa. Les croquis d'Urasawa mettent une tarte à beaucoup de pages finales de manga. C'est-à-dire que le gars a déjà tout en tête au moment où il fait son croquis. Mais c'est fourni, c'est précis. Après, tu le vois, genre, il y a des petits trucs genre « Ah, la tasse, elle a changé de place finalement sur la page finale parce que ça rend mieux. » Et le gars a un niveau de détail sur tout ce qu'il fait constamment. Dès qu'il finit un manga, 5 ans plus tard, il refait la fin. Toujours des trucs comme ça, des trucs. Jamais lâcher le truc. Alors, plutôt avec tout ce temps-là de production.
Pour 8 épisodes, entre guillemets.
Pour seul... 8 épisodes qui font une heure, certes,
évidemment.
Mais il doit être comme un dingue. Il s'est lancé plus un peu dans l'animation il y a quelques temps. Je sais pas si tu te souviens.
Ouais, bien sûr.
Il a fait un petit clip.
C'est ça. Je suis trop serein sur la série. J'étais trop serein. Mais là, après avoir vu ces deux premiers épisodes, je sais que la suite va aussi dépoter. Parce qu'encore une fois, on n'a pas vu le gros du manga. C'est ce qui se passe après. Enfin, c'est du setup. C'est un thriller, hein, plutôt. C'est un gros thriller. Beaucoup de mystères qui sont mis en place, beaucoup de personnages qui sont introduits.
Il est très fort là-dedans, en plus, Urasawa. Rien que Monster, c'est un de mes mangas préférés.
C'est absolument fou.
Sa chasse à l'homme, rien que le fait là, c'est aussi, il me semble, une chasse à l'homme aussi.
C'est ça.
Donc, totalement confiant à ce niveau-là.
C'est ça. c'est ça, le manga est excellent en 8 volumes. L'animé va suivre ça, je pense, de très près. Parce qu'encore une fois, c'est l'adaptation du manga pur et dur. Il n'y a pas de rajout, ils n'enlèvent rien, il y a tout dedans. C'est absolument, absolument dingue. Donc, du coup, plein de personnages qui sont introduits. T'en as pensé quoi un petit peu, toi, des personnages, l'écriture des dialogues
C'est beau. En fait, c'est. Déjà, le fait que ça parle de robots, d'humains et tout, et le fait que les personnages soient aussi bien écrits. C'est ça pour moi qui va faire la force du truc, très clairement. Les personnages, comme tu as dit, sont attachants. Mais pas attachants dans le sens où tu les aimes bien. T'as de la compassion vraiment pour les personnages. Ils font très réel. Par exemple, Norstu, c'est un robot militaire. Et lui, il a dit « Eh non, c'est bon, vas-y, j'en ai marre de ces conneries. Venez, je fais des trucs pisse, je joue du piano. » Et sur un truc un peu bateau comme ça, juste du militaire qui veut sortir de ça et passer à autre chose, on développe une relation avec un autre personnage, le rapport à l'art, à l'humanité et tout, et juste avec deux personnages, presque un huis clos, ces deux personnages sont dans la même pièce tout le temps, et juste ils discutent. Et c'est trop fort. Mais il y avait une meuf qui pleurait dans la salle. Et c'était pas surjoué.
C'était pas surjoué, effectivement, parce qu'on... Encore une fois, j'allais dire même le gros truc derrière plutôt, c'est des robots qui peuvent avoir aussi des sentiments humains. C'est un peu ça, avoir des robots qui sont plus humains que certains humains. Et là, on est dedans, clairement, avec du coup tous les premiers... Et plus, aussi, le fait qu'ils soient des robots, tu peux te permettre des chara-design un peu... Tu parles de Norstu, il a un chara-design très spécifique. Les autres, peut-être un peu moins, ils font plus humains, humanoïdes, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais ça reste des robots. Et comment des robots perçoit le monde et peut percevoir les sentiments humains et le monde qui les entoure quand ils sont programmés pour faire généralement la guerre et pour tuer d'autres robots. Ben c'est un petit peu ça le plot de départ de Pluto. Ils vont tous se faire en tout cas assassiner les uns après les autres. En tout cas, il y aura des tentatives d'assassinat les uns après les autres. Et comment on va sortir? Il y a une enquête qui se cache derrière tout ça. Vous le saurez en regardant ou en lisant Pluto. Encore une fois, le rythme, c'est le plus important. Dans un thriller, c'est le rythme.
Ah oui.
Si tu vas trop vite, c'est nul. Si tu vas trop lentement, bah, ça peut être nul aussi. Là, on est pile dans ce qu'il faut pour être happé et pour voir la suite. Quoi. Là, au bout d'un épisode, tu vas voir la suite directement. La preuve, c'est qu'à la base, on devait regarder un épisode, faire une pause et regarder le deuxième. On a fini le premier épisode, tout le monde a dit. Chef, mets-moi tout de suite la suite. Mets-moi tout de suite la suite. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de je sais pas quoi. On va pas pisser, j'avais envie de pisser de ouf, mais je suis pas allé pisser. Ouais, je le dis. Parce que c'est ça la force de Naoki Urasawa, c'est son écriture. L'écriture des personnages, l'écriture du scénario, tout simplement. Des dialogues. Les dialogues, il est tellement fort sur les dialogues également. C'est aussi ça qui fait vivre les personnages.
C'est des vraies conversations entre êtres humains, en fait. C'est bizarre. J'ai l'impression de voir des vrais gens qui parlent. T'as pas ce côté cliché un peu où. T'as pas l'impression d'avoir des personnages qui font une pièce de théâtre. Là où généralement dans l'animation, en vrai, t'as quand même ce truc là, les gens ne parlent pas de manière naturelle, ils font des phrases un peu alambiquées ou quoi. Là, t'as vraiment un côté humain. Et c'est trop bizarre. Il est trop fort. Il est juste trop fort. C'est... Qu'est-ce que je veux dire?
Le manga, il date de 2003. Il date de 2003. D'avoir une adaptation 20 ans après, littéralement. Il a commencé en 2003, il a fini en 2009. Donc en 2023, alors l'adaptation de l'anime, c'était presque inespéré, je pense, pour les fans de la série. On rappelle que c'est l'adaptation d'une histoire d'Astro Boy, d'Osamu Tezuka, qui s'appelle le robot le plus fort du monde, très précisément. Donc j'ai envie de dire déjà, rendons à César ce qui est à César, hein, Osamu Tezuka, créateur d'Astro Boy, une icône absolument de la pop culture de façon globale. Hein, c'est absolument dingue ce qu'il a pu faire.
Il s'est fait grailler sur le feat, cela dit. Désolé pour lui.
C'est pas pareil, c'est pas la même perception, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'Astro Boy, on pourrait avoir l'image d'un truc un peu pour gamin.
Oui, c'est pas tant le cas.
C'était pas déjà le cas à l'époque de Tezuka. Mais alors là, c'est totalement un manga et un anime pour adultes.
D'ailleurs, le personnage de. Je suis trop japonais, j'allais dire de Atom, de Astro, il a ce truc bizarre un peu. C'est un gamin, enfin il a un corps d'enfant, mais c'est un adulte.
C'est ça.
Mais du coup, vu qu'il a un corps d'enfant, il cherche à se comporter comme un enfant. Et du coup, il le fait. Et même lui, il sait pas vraiment, est-ce que je le fais parce que je suis réellement, j'ai une intelligence artificielle d'enfant, ou est-ce que je me suis matrixé tout seul à faire des trucs pour imiter les humains? Genre, moi, il va aux toilettes. Il va aux toilettes. Et il dit un truc genre, ouais, ah ouais, j'ai pris l'habitude. Il mange une glace. Il dit, c'est trop bon. Le robot fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Va faire semblant de boire du café comme tout le monde. J'en sais. Plein de trucs comme ça où tu dis, oh. Et t'as pas, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on te donne pas la réponse vraiment. en tout cas pour l'instant, est-ce que ils ont vraiment, à quel point ils ont développé leur intelligence, à quel point ils arrivent à ressentir des émotions, avoir des goûts,
ils rêvent la nuit, oui non, ils font des cauchemars,
ouais,
oui non, et quand ils mangent, quand ils consomment de la nourriture ou qu'ils boivent, ils sentent pas le goût forcément, mais du coup est-ce qu'ils prennent quand même du plaisir à le faire? Ils sont programmés pour tuer d'autres robots pour faire la guerre à la base, mais aujourd'hui c'est plus le cas et certains ne veulent même plus le faire. Voilà, où est la...
Est-ce qu'ils sont honnêtes finalement?
Ça,
est-ce qu'ils sont honnêtes finalement, genre les personnages? Enfin, en
je pense qu'on sent quand même qu'ils sont honnêtes, on se pose pas forcément la question. C'est où est la limite entre l'humain et le robot?
C'est littéralement, c'est la transhumanité littéralement qui est abordée dans Pluto. Et encore une fois, notamment via un des personnages principaux de la série, Gezich, qui est du coup qu'on va suivre notamment avec son histoire personnelle, qui pour l'instant n'est pas encore très développée dans les deux premiers épisodes. On le verra pas plus par la suite encore. Notamment avec sa femme, qui est aussi un robot. On a un personnage, c'est un robot, il a adopté des enfants, mais il aime ses enfants l'aiment comme si c'était leur père. Enfin, c'est leur père, littéralement, il a une femme et des enfants. Mais du coup, c'est pas vraiment ses enfants, il les a adoptés. En même temps, si, mais enfin, c'est
trop bizarre. C'est trop... En fait, et ça sonne juste, en plus.
Ça sonne tellement juste, c'est tellement... Voilà, encore une fois, c'est pas surjoué, il n'y a pas de... C'est tellement un thème bien abordé, aujourd'hui, j'ai envie de dire, à l'ère des IA
c'est
et compagnie.
C'est peut-être plus d'un propos aujourd'hui qu'à l'époque, quoi, encore.
Ça, à l'ère des IA et de plein de choses qui arriveront. Peut-être que dans le futur, on aura des robots comme ça, on verra bien. Mais en même temps, il y a le danger. Il y a le danger qui plane sur, ben, ok, c'est des robots, ça reste des robots...
Et si les lois de la robotique elles sautent, il se passe quoi?
C'est ça. Où est la limite? Simplement, où est la limite? Non, voilà, franchement, pour revenir sur l'adaptation animée, je l'ai trouvée excellente de bout en bout. On était vraiment dans des bonnes conditions.
L'opening est exceptionnel. Voilà.
Le générique, effectivement, le générique est exceptionnel. On reprend des planches du manga. Donc, c'est plutôt cool. C'est la justesse. En fait, je pense que comment je pourrais résumer du mieux possible la série, c'est que c'est juste dans tout ce qu'il faut. Dans le rythme, comme je l'ai dit, visuellement, c'est vraiment le manga adapté en animé, justement, dans les dialogues, dans les couleurs, le ton de couleur choisi, par moment, dans la CGI, même il y a beaucoup de CGI dans la série, mais c'est toujours utilisé de façon juste.
C'est littéralement le manga en animé.
Est-ce
en fait
qu'on tiendrait pas là l'animé de l'année, messieurs?
C'est un peu tôt.
J'ai rien vu encore, mais il y a de grandes chances en vrai. Vu quand...
C'est un peu tôt, faut pas s'emballer. Oui, peut-être. En vrai, il y a moyen.
De ce que j'ai vu, ça joue dans la catégorie des meilleurs.
Si c'était comme ça jusqu'à la fin.
En tout cas, meilleure série suspense, ça c'est sûr.
Ah oui.
Mais... Les Aroma 2024. Sûr, certain, il gagne dans le gagnant. Il gagne tous les jours.
Et meilleur animé de l'année, en vrai.
Il se pose. Hein.
Ah, il se pose. C'est un sérieux candidat de ce qu'on a vu. À voir si ça se maintient jusqu'au bout.
Est-ce que vous pensez que la série rencontrera un succès sur la plateforme Netflix?
On fera tout pour. Hein.
En France, oui. Au Japon, oui. À l'international, ça va être une question de communication, je pense. Hein. Ça va être une question de communication. Parce que rien que le format, en vrai, ça peut être assez désarçonnant, je pense, pour les fans d'animé classiques. Genre, tu vas arriver, tu vas proposer 8 épisodes d'une heure, donc c'est plus proche d'une série télé que d'un animé. En même temps, c'est un animé. Donc c'est vrai que tu vois, c'est spécial quand même comme truc. C'est pas là où des trucs comme JJK ou Demon Slayer ou tu sais qui sont très pyrotechniques et tout. Là c'est il y a comme une certaine sobriété dans l'histoire et tout. C'est pas.
Est-ce que c'est si grand public que ça en fait plutôt? Je suis pas sûr.
J'ai envie d'y croire. Moi j'ai envie d'y croire. Mais est-ce que votre pote qui est vite fait, qui aime bien les animés, qui regarde 2-3 trucs, est-ce qu'il va regarder plutôt?
En fait, ça peut être cool dans le sens où ça reste un thriller.
En même temps, Monster, ça a du buzz. Hein.
C'est ça. Non, mais le côté un peu thriller, le fait que tu vois, tu veux connaître la suite, qu'est-ce qui se passe, c'est qui fait ça, qui se cache derrière ça, pourquoi ils y font ça. Je pense que ça peut marcher quand même, tu vois. Ça peut marcher pour ce côté-là un peu, voilà, on veut savoir la suite, on veut savoir ce qui se passe. Ça sent que dans un monde futuriste, évidemment, mais qui reste réel, entre guillemets, entre grosses guillemets. Donc, pourquoi pas. On a vu la série en VO. Malheureusement, on n'a pas pu écouter quelques extraits en VF, mais de ce qu'on sait, c'est que la VF est plutôt bien.
Ouais,
on l'a beaucoup recommandé. Donc pourquoi pas, on est resté sur la VO pour nous. Bah, voilà, en fait, plutôt c'est validé. Hein. C'est Banger Masterclass, c'est tout en même temps.
Il a
tous les titres.
Et on joue
le 26 octobre, très précisément. Donc voilà, franchement, on vous le recommande vivement si vous êtes fan d'anime tout court, si vous êtes fan de Naoki Urasawa ou pas, si vous avez lu Pluto ou pas, je pense que ce sera une bonne porte d'entrée aussi. Donc,
Et par contre, je pense que vous pouvez peut-être regarder ça avec des gens qui sont pas dans les animés, pour le coup. Là où je dis que les fans d'animés classiques allaient peut-être avoir un peu de mal, Naoki Urasawa, je trouve que c'est le bon oui. truc, tu sais, tu peux, le manga que tu files à ton daron, tu vois. Mm. Et bah là, je pense que Pluto, ça peut aller chercher un public insoupçonné, par contre.
Effectivement, effectivement. Donc on va pouvoir s'arrêter là, je pense, pour ce podcast. À moins que d'autres choses à rajouter, hein, j'ai zappé des trucs.
Je pense qu'on a fait le tour. Hein. De toute façon, on reviendra sûrement dessus à l'occasion parce que.
Bah, si on fait un spécial animé de saison, je pense qu'on reviendra quand même un petit peu sur Pluto. On l'aura vu d'ici là, je pense, en entier. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Pas besoin d'avoir lu Astro Boy, effectivement, hein, pour s'y mettre dedans. Pas besoin d'avoir lu un Urasawa avant. Pas besoin d'avoir lu le manga avant. Vous pouvez y aller, les yeux fermés,
full découverte.
Voilà, vous allez kiffer, je pense. Et dites-nous, voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux quand vous l'aurez vu. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés dans ce podcast. Évidemment, le meilleur podcast animé, manga, je pense que c'est le minimum, c'est un banger, comme Pluto. C'est dans la justesse. Effectivement, c'est tout nous. Merci Kai, merci Xela.
Merci Netflix pour l'OPSP. Non, merci Netflix pour l'invitation tout de même.
Effectivement. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Merci à tous.
Ciao.
Salut.
Tous.